Alors on compare, on prend, on teste, on utilise. Puis on jette, on remplace et on amasse. Pas seulement les choses, les personnes aussi. Nos relations amoureuses et sexuelles sont à l'image de la société de consommation dans laquelle nous avons grandi. Pourtant, nous voulons être aimés. Être aimés durablement, être aimés pour ce que nous sommes. C'est notre désir le plus profond. Alors pourquoi y renoncer, puisque c'est possible de le réaliser? Je suis Thérèse, la cofondatrice de SEM, et vous écoutez Love Care, le podcast de l'amour durable. Il aime ses enfants, les trésors français, les paysages, la gastronomie, les vins, l'architecture. Il aime les sports de combat, les déserts, la solitude. Il aime les gens francs, honnêtes, cash. Bonjour François Baer.
Bonjour Thérèse.
Je suis ravie de pouvoir converser avec toi dans le cadre de ce podcast parce que je voulais d'abord te remercier, François, te remercier d'avoir accepté de nous offrir une masterclass produite par SEM sur la question du discernement, sur les choix à prendre, comment est-ce qu'on prend une décision, et puis on l'a appliqué dans le domaine amoureux. Merci d'avoir accepté cette aventure avec nous.
Merci de l'avoir proposé. Je suis ravie de partager ça avec vous.
Et alors, je voudrais qu'on puisse ensemble découvrir à la fois ton travail, ton approche, et puis ton intérêt pour cette question du discernement. D'abord, comment est-ce que tu définirais ce mot discernement? Ça veut dire quoi?
Alors, vaste sujet, vaste programme. Ma manière de définir le discernement, elle est de deux façons. Dans ce que ça produit, c'est l'art de donner aux choses la portée qu'elles méritent. Comment on fait en sorte que chaque chose puisse trouver sa place dans sa vie? Et en termes de fonctionnement, si on se met vraiment dans le mécanisme intérieur, le discernement, pour moi, c'est de l'écoute accumulée jusqu'à l'évidence. C'est le travail de l'évidence.
On t'a proposé de faire cette masterclass sur le discernement parce que François, t'as fondé une école du discernement. Alors moi, j'étais émerveillée par ce projet. Est-ce que tu peux simplement expliquer comment est-ce que t'en es venue à fonder une école du discernement?
L'histoire, c'est intéressant de le poser, c'est que je pense que très vite, dans ma vie, je suis tombé sur des accidents. On pourra en parler, c'est-à-dire que et même au niveau justement de mon couple, je suis tombé sur des accidents et les choses ne sont pas passées comme je le voulais. J'avais tout mis en œuvre pourtant pour cela. Je me suis battu comme un forcené et j'ai été obligé de prendre une décision très difficile, qui était celle du divorce, et continuer à vivre avec et continuer à me construire derrière. Et j'assume à 100% ce choix, même s'il a été difficile. Et en fait, très vite, que ce que j'ai vécu au niveau personnel, comme ce que j'ai vécu aussi au niveau professionnel, puisque j'ai commencé en étant officier de carrière saint-cyrien, officier à la Légion étrangère dans un régiment parachutiste. Là aussi, j'ai dû faire des choix, en dépit de cette possibilité de carrière que j'avais qui puisse durer de manière linéaire, d'aller ailleurs et d'aller avoir une fécondité ailleurs. Comme si j'avais formulé ça un peu comme ça, en disant « Les épreuves ne sont pas des murs, mais des mains délicates qui nous emmènent, malgré nos entêtements, vers notre juste chemin. » Et voilà, ça a été un peu... Je suis passé par plein de phases difficiles. Mais pour aller droit au but sur votre question, j'ai été obligé très tôt de devoir trouver des solutions à des situations qui étaient inscrites nulle part, dans lesquelles il fallait bien trouver un débouché de vie, un débouché de fécondité. Il ne s'agissait pas de rester justement dans un cadre confortable au risque d'être tordu pour pouvoir juste justifier d'être dans la bonne case. Il fallait bien être capable de voir un débouché nouveau, de voir un chemin nouveau. Et donc, il a fallu que je descende dans mon intériorité, indépendamment de toutes les, voilà, les bousculements, les pressions, les jugements sociaux, pour faire ce pas majeur dont la moisson serait différée. Donc, le discernement, en fait, ça a été une des grandes confrontations de ma vie, une grande convocation de ma vie. Et plus le temps a passé, plus j'ai pu m'apercevoir que, justement, avec le temps, j'en voyais la moisson et qu'il me paraissait indispensable, à partir du moment où j'avais pu le pratiquer puis le mettre en mots, de le partager au plus grand nombre. Parce qu'au final, plus on avance dans la vie, plus on s'aperçoit que voilà, ce n'est pas dans les livres qu'on aura la réponse à nos problèmes, mais c'est bien dans une capacité intérieure de clairvoyance.
Je te remercie, François, d'avoir eu le courage de te remettre en question sur la façon dont tu as posé à l'époque tes choix. Parce que tu nous offres aujourd'hui une masterclass exceptionnelle. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de la suivre. Elle est disponible sur le site internet de SEM. Et si c'est la première que nous avons choisi de produire, ben, ce n'est pas un hasard. Chez SEM, Nous soutenons l'amour durable. Et l'amour durable, ça ne signifie pas durer pour durer, rester ensemble coûte que coûte. Absolument pas. L'amour durable, c'est une relation qui s'épanouit dans la quête de solidité, de stabilité, d'équilibre, de sérénité. C'est parce qu'il est construit solidement que cet amour va résister aux épreuves du temps. Tu vois, un peu comme une maison construite sur des fondations solides, elle résiste aux tempêtes. Ou un vêtement fabriqué avec des matériaux de qualité résiste à l'usage. Les fondations, dans une histoire d'amour, ben c'est justement ce temps du discernement. Et les matières premières dans une histoire d'amour, ben c'est tout ce que je vais découvrir de l'autre, quoi. Ses valeurs, ses désirs, sa personnalité. Et voilà pourquoi on a décidé d'ouvrir notre programme de formation avec cette première question. Comment faire le bon choix en amour? Comment prendre la bonne décision? Tu valides notre choix?
Et profondément, pour deux raisons. D'une part, pour ces éléments de choix initiaux. C'est-à-dire que quand tu parles de fondation, effectivement, moi, je me suis aperçu que très souvent, pour plein de raisons sociales, on va construire les choses beaucoup plus sur des valeurs apparentes que des valeurs réelles, des valeurs d'appartenance par rapport au groupe, beaucoup plus que des choix qui sont en alignement avec soi-même. C'est une évidence qu'on pourrait tout de suite donner, quoi. C'est comme quelqu'un qui vous dirait « telle personne, elle est idéale pour toi, choisis-la ». On a envie de lui répondre « elle est idéale en soi, elle n'est pas idéale pour moi ». Et ça, il n'y a que moi qui le sais à l'intérieur de moi. Tu as jugé sur des critères extérieurs, tu n'as pas jugé sur des critères intimes qui sont liés à mon contexte personnel. Bon, voilà. Donc déjà, ça me parle sur cette question de la fondation initiale qui est effectivement souvent, qui a l'apparence d'une solidité alors que c'est un colosse au pied d'argile. La deuxième chose, c'est que précisément, à partir du moment où il y a ces fondations bancales, il faut être capable, le moment venu, c'est là que le militaire parle aussi, quand la situation est très contrainte, de faire des choix difficiles qui permettent la survie et qui permettent la relance plutôt que de s'entêter, de se draper d'un honneur lâche qui est de ne pas décider pour que les apparences soient conservées et que tout le monde meure, quoi. Une des réflexions que j'ai souvent en accompagnement, c'est la distinction que je donne entre le sens de la mission et l'intelligence de la mission. C'est bien en écho par rapport à ce que tu dis de la durée. C'est-à-dire que le sens de la mission, c'est un attachement moral à la mission qui est une très belle valeur tant que la mission ne bouge pas. Et c'est une valeur qu'on demande en général aux échelons. Plus ils se rapprochent de l'exécution, plus on demande que ce soit une valeur forte. Mais plus on se rapproche de la décision, plus on demande par priorité l'intelligence de la mission, c'est-à-dire la capacité, malgré l'attachement collectif à un axe qui a été donné à un moment donné, d'être capable de repositionner l'axe général. L'exemple qui me vient, c'est le pont La Rivière Kouai, pour ceux qui le connaissent, hein, des prisonniers anglais qui se retrouvent dans un camp japonais, qui font le choix de construire un pont pour les Japonais en sachant qu'il n'y a pas d'enjeu stratégique sur ce pont, ce qui leur donne la possibilité d'un débouché. Et j'aime bien, donc c'est une bonne illustration d'une construction collective qui se fait, sauf que patatras, d'un seul coup, les Anglais réinvestissent la Birmanie. Donc, le pont devient stratégique. Et là, il s'agit de faire péter le pont. Et là, vous avez des gens qui se sont tellement mis dans une appartenance à la construction du pont qu'ils ne sont pas capables de prendre cette décision majeure qui est de faire péter le pont, en l'occurrence, pour sauver l'ensemble du collectif sur le sujet.
Capable de faire péter le pont, ça m'interpelle. Alors, je te disais que pour SEM, on défend ce concept d'amour durable et donc comment elle inscrit avec des bonnes fondations. Et puis, il y a une chose, moi, dont je n'ai jamais parlé, vraiment jamais, c'est que j'ai connu moi-même aussi un divorce. Tu en as parlé en introduction. Alors, ça peut sembler surprenant que lors de ce podcast, on parle d'amour et on est deux personnes divorcées à en parler. Mais justement, si j'ai voulu m'investir dans SEM, si j'ai voulu que la première masterclass soit celle du discernement, c'est parce que, justement, ça fait aussi écho à mon histoire. Si j'ai connu, j'ai pris la décision à un moment de faire péter le pont, comme tu dis, c'est-à-dire de décider d'arrêter un mariage. C'est parce qu'en fait, à la base, quand on a décidé de se marier, il y avait un mauvais, très mauvais, extrêmement mauvais discernement. C'est-à-dire qu'on a construit une maison qui avait de la gueule, hein, qui était belle, une magnifique baraque avec trois magnifiques enfants, avec des magnifiques projets, avec des personnalités hautes en couleur, très belles. mais avec des fondations en sable, des fondations extrêmement fragiles. Et dans cette maison magnifique, on ne s'y sentait pas bien, parce que nous, on savait qu'il y avait un défaut de construction. Et tu sais, comme quand on veut vendre une maison et on sait qu'il y a un défaut de construction, on va masquer les défauts pour que surtout personne ne les voit. Donc, on mettait beaucoup d'énergie à masquer les défauts au lieu d'aller les réparer à l'origine. Et finalement, on a construit cette maison avec plusieurs étages. Et à un moment, elle était extrêmement fragile. À chaque coup de vent, on pensait que tout allait s'écrouler. Et à chaque fois, on est revenu sur ces fondations qui ont été mal posées. Bon, il se fait aussi que je me suis mariée extrêmement jeune. Hein, j'avais 19 ans, mais ce n'est pas juste une justification. Mais ça aussi explique qu'il y avait le temps du discernement qui n'a pas été bien établi et que ça a conduit à un divorce des années plus tard. Et le divorce, moi, j'en souffre tous les jours. Ça me reste la blessure de ma vie. C'est d'une douleur. Voilà, je n'arrive pas à la cicatriser pleinement. Je pense que je vivrai toute ma vie avec cette douleur. Et le divorce, je ne le souhaite pas à mon pire ennemi. Je ne souhaite pas à mon pire ennemi de divorcer. C'est terrible, parce que tu vois, quand tu dis « on va péter le pont », à un moment, il faut, parfois dans certaines situations, arrêter une relation qui n'est pas bonne, c'est-à-dire une relation qui nous entraîne vers quelque chose de mortifère, de triste, qui nous étouffe. Mais ce n'est pas quelque chose que l'on désire au départ. Donc, on ne souhaite à personne d'arriver à cette décision-là. Et c'est pour cette raison que j'ai vraiment envie de proposer des solutions comme celle de, comme ta masterclass, ou pour accompagner le plus de personnes possible à prendre le temps de la décision. Tu vois, je ne sais pas si ça fait écho aussi chez toi, mais...
énormément, et ce que je trouve très émouvant, c'est de se rejoindre dans ce projet sur la volonté, plutôt que de, comment dire, soit de se draper sur sa position, soit de s'éloigner de ceux qui vivent un bonheur en disant ben, « pour moi, c'est foutu », etc. C'est de tirer parti de nos propres trébuchements, de nos propres difficultés, pour en faire un trésor pour les autres, en fait. Hein. Je pense qu'il y a une fécondité profonde à aller justement dans ces lieux d'erreur. C'est une image que j'ai donnée récemment à quelqu'un. Quand tu vas apprendre l'anglais, vaut mieux choisir un professeur anglais ou un professeur étranger ? La première tendance, bah oui, un professeur anglais. Bah non, en fait, il vaut beaucoup mieux un professeur étranger. Pourquoi ? Parce que lui a fait toutes les démarches et rentré dans les difficultés de la langue pour pouvoir l'enseigner. Là où l'anglais, la tentation de dire, bah, on dit comme ça parce que c'est comme ça. Pour lui, c'est juste naturel. Tout a toujours déroulé. Donc, là où un professeur étranger, voilà, encore une fois, c'est parce qu'il sera passé par les difficultés qu'il aura en lui une expérimentation des lieux, une capacité à simplifier les problèmes parce qu'il aura fait cet effort pédagogique pour y arriver, etc. Et donc, je trouve ça très beau, au contraire. Et je pense d'ailleurs que dans toutes les institutions qui préparent au mariage, devrait y avoir une obligation de présence de divorcés. Parce que ce sont précisément des rescapés qui peuvent protéger les autres. Enfin, quand on va... je vais rester sur des thématiques guerrières, mais quand on va sur un théâtre d'opération... on ne va pas juste interroger ceux pour lesquels tout a déroulé. On va précisément débriefer, faire des rétextes, comme on dit, des retours d'expérience de gens qui se sont trouvés dans des situations compliquées, de gens qui ont failli y passer. C'est là qu'il y a une possibilité accumulée d'aider les autres. Et puis, de ce que tu dis aussi de cette blessure, ce que je trouve intéressant, c'est à la fois une blessure, souvent parce qu'on n'a pas eu les éléments de départ, souvent parce qu'après s'être battu avec acharnement, ce que les gens aussi oublient, on s'est battu avec acharnement, et on est tombé parce que ça arrive sur des impasses, sur des impossibilités, et donc sur un vrai devoir, encore une fois, plutôt que de garder l'apparence, de se repositionner. Mais ce que je trouve malgré tout assez merveilleux, c'est de voir, beaucoup la thématique de la fécondité, mais elle est très présente dans tout votre programme, de voir que même dans ces lieux d'impasse et d'impossibilité, il y a une fécondité nouvelle qui sert à tout le monde.
Ça me touche ce que tu viens de me partager parce que moi, j'ai reçu le message complètement inverse, c'est-à-dire que pour parler d'amour et de sexualité, il fallait que je sois exemplaire et d'exemplaire. En fait, on a opéré un glissement vers irréprochable. Sinon, je ne suis pas crédible. Et d'ailleurs, c'est un reproche qui a pu m'être fait et qui m'est régulièrement fait. Mais comment vous parlez d'amour durable alors que vous êtes une femme divorcée ? Et peut-être qu'au travers de la conversation qu'on a ensemble, on donne quelques éléments supplémentaires. Si aujourd'hui, je donne toute mon énergie, toute ma vie pour accompagner les hommes et les femmes à pouvoir vivre leur aspiration profonde à aimer et à être aimé durablement, c'est parce que je suis passée par cette épreuve-là et que je sais qu'elle est douloureuse et qu'il y a peut-être aussi des solutions pour éviter ces situations-là. Parce qu'il faut être aussi très honnête, c'est dur pour moi à partager, mais si j'avais si j'avais suivi ta masterclass, François. Non, mais je t'assure que c'est vrai parce que je l'ai écouté, ta masterclass. Si j'avais suivi ta masterclass avant de me marier, je ne me serais pas mariée avec cet homme. Et même si aujourd'hui, c'est difficile à dire parce que j'ai 3 magnifiques enfants avec cet homme et qu'on a quand même réussi à vivre une vie qui était très, très belle et profonde aussi, malgré les épreuves. Donc, on peut jamais dire, on peut pas regretter un mariage parce qu'il y a les enfants, on peut pas regretter les enfants. Mais la vérité, c'est que je ne me serais pas mariée avec cet homme. Et si j'avais eu des clés de discernement, et à ce moment-là, dans mon histoire, les personnes qui m'ont entourée, les personnes qui m'ont accompagnée, n'étaient pas du tout éclairées. Et quand je partageais certaines situations de ma relation, ils me disaient « Oh non, c'est pas un problème ça, mais non, marie-toi quand même !» Alors que objectivement, il y avait des vrais problèmes qui auraient pu être vus avant. C'est pour ça que j'avais envie d'aborder ce sujet-là qui me tient vraiment à cœur. Et peut-être que d'une certaine façon, pour être totalement transparente avec tous, c'est que c'est aussi une façon de réparer quelque chose dans mon histoire que d'offrir ces masterclass. C'est aussi une façon de réparer quelque chose dans mon histoire que de travailler pour SEM. C'est d'en faire effectivement une fécondité. C'est peut-être une façon de s'en sortir quand on souffre. C'est ce que j'avais envie de te dire par rapport à la masterclass que tu proposes, parce que tu vas vraiment donner des clés. Est-ce que tu as remarqué, comme moi, que finalement, peu de personnes nous aidaient à bien discerner?
Oui, mais en fait, c'est très juste de l'aborder comme cela. C'est-à-dire que ça, moi, c'était un constat aussi que j'ai cessé de poser au fur et à mesure de ma formation, même au niveau militaire, et pareil, même au niveau professionnel. Maintenant, j'accompagne beaucoup de dirigeants. C'est de voir à quel point on est environné de savoir, mais qu'on ne nous donne pas les clés pour transformer ce savoir en une possibilité de choix. C'est une formule que j'ai, c'est pas parce qu'on a plus d'ingrédients qu'on fait une meilleure recette. On peut avoir tous les ingrédients de la terre et jamais savoir cuisiner. Donc le vrai sujet, c'est ça. C'est cette intelligence de l'ingrédient et du moment qui fait qu'on cuisine bien de la bonne façon. C'est en ça qu'il y aurait pour moi, en tout cas c'est ce vers quoi je pousse, un vrai devoir, une vraie nécessité d'investir ce champ majeur. Enfin, quand on voit énormément de scandales qui sortent aujourd'hui à pas mal de niveaux, dans la vie, encore une fois, dans la vie politique, dans la vie des entreprises, dans la vie religieuse, vous dites à chaque échelon, il y a un manque patent de discernement, un manque patent d'appréciation des choses. Et donc, oui, je pense que c'est indispensable de surinvestir cet endroit qui est le point de passage obligé de la vie.
Il suffit pas d'avoir une tête bien faite. Moi, quand je me suis engagée, j'avais une tête très bien faite. J'avais énormément réfléchi. Je m'étais énormément formée sur les questions d'amour. Et c'est comme si tout était dans ma tête. J'avais une belle intelligence. Mais ce n'était pas passé dans ces questions du discernement. Est-ce que tu pourrais en dire plus sur cette différence entre ce savoir? On peut savoir beaucoup de choses sur l'amour, la sexualité, sur le couple, et pourtant manquer de discernement.
Oui, j'ai 2 images là-dessus. C'est savoir tout sur tout, c'est une ambition de dictionnaire. Voilà. Donc, c'est quelqu'un, on pose la question, il répond quelque chose de déjà su. C'est une logique de certitude. Ce n'est pas du tout une logique de discernement. C'est une logique de savoir, c'est une logique de raisonnement à la limite. Et donc, pour moi, cette première image qui est très intéressante, c'est de voir comment le savoir, encore une fois, n'a pas la case connexion. On peut dire que le savoir est un logiciel. Le discernement est le Wi-Fi qui lui donne une portée précise dans un contexte particulier. Et donc, voilà, c'est du savoir sans connexion. Et du savoir sans connexion, il est à côté de la plaque. L'autre idée, mais qui est un peu en écho là-dessus, que je développe beaucoup dans la masterclass, c'est de dire le raisonnement dit ce qui est bon en soi. Le discernement dit ce qui est bon maintenant pour moi.
Ça change tout. Et comment est-ce qu'on fait pour apprendre à bien discerner?
Alors, l'idée, c'est d'abord de se connaître, parce qu'on a un rapport naturel au discernement qui n'est pas le même. C'est tout le travail que j'ai fait sur les personnalités, c'est-à-dire qu'il y a des chefs naturels, qu'on le veuille ou non. Les gens qui auraient besoin de s'en convaincre n'ont qu'à aller voir la politique et voir. Voilà, on a beaucoup de ventes et de savoir accumulé, mais il n'y a pas beaucoup de discernement. Donc d'abord se connaître pour savoir son biais là-dessus. Et après, le point clé, je développe beaucoup, beaucoup d'éléments dans la masterclass là-dessus, mais le point clé pour moi, c'est vraiment le travail de l'écoute. Et de l'écoute intérieure, c'est-à-dire que pareil, tous vos conseillers vont vous donner de la donnée brute qu'il ne s'agit pas de transformer en synthèse, mais en discernement. La synthèse ou le consensus, c'est la volonté d'une sorte de péréquation, de point moyen pour satisfaire tout le monde, et donc d'être capable potentiellement d'être d'accord, mais à côté de la plaque, de trouver un point central qui est complètement à côté du sujet. Là où l'écoute, là aussi on y reviendra, c'est vraiment le fait de laisser revenir l'évidence à l'intérieur de soi. Et donc, les deux choses, j'en resterai là pour le moment, mais c'est vraiment être capable de s'écouter intérieurement, d'écouter la première sensation, de voir la paix dans laquelle on est au fur et à mesure que les choses se passent, de voir comment on est capable de lâcher prise et de se laisser regagner régulièrement par l'évidence des choses à faire. Et la deuxième chose, c'est pour moi, c'est pas pour rien que j'ai dit que j'aimais la solitude, même si je n'aime pas que la solitude, c'est qu'on ne peut rien faire de durable si on n'a pas une possibilité d'apprivoiser sa solitude. Je pense beaucoup aux jeunes qui nous écoutent et qu'elles souvent je pose la question de la solitude et qui me répondent en croyant avoir la bonne réponse. Rassurez-vous, pour moi, je sais très bien, je la gère, la solitude, je n'y suis jamais confronté. Je ne suis jamais seul. J'ai toujours quelque chose, j'ai toujours quelqu'un, j'ai toujours quelque chose à faire. Non, vous ne pouvez pas être dans une possibilité de trajectoire partagée avec quelqu'un si vous êtes une particule volante, si vous êtes complètement bousculé, ballotté par les événements, par les autres, par les likes, par les images. Donc, le fait d'être capable de se confronter à sa solitude, c'est vraiment creuser en soi une possibilité d'avoir une clairvoyance intérieure.
Alors, il y a cette solitude dont tu parles, et puis aussi, donc, on parlait de cet être bien fait, d'intelligence, on pourrait très bien se dire, pour vivre un amour durable, on va donner des recettes. Et il y a d'ailleurs pas mal de personnes qui ont proposé des associations, des projets, des livres, réussir son couple, réussir son mariage, et il y aurait des recettes à suivre. Personnellement, ça m'a mis toujours extrêmement mal à l'aise, toutes ces propositions-là, comme si l'amour était quelque chose à réussir. Pourquoi ça m'est mal à l'aise? Parce qu'on pourrait tomber dans quelque chose qui serait de l'ordre du volontarisme. C'est que quand tu te dis, en fait, c'est ça qui est bien de faire, par exemple, le mariage, c'est bien pour différentes raisons, c'est bon pour soi, pour les autres, pour sa famille. Et à un moment, je vais m'entêter, je vais faire preuve de volonté. Ce volontarisme, est-ce que tu peux un peu en parler?
Oui, il est clé. On en parle beaucoup dans un des podcasts hein, sur ce que j'appelle les trois couches de la personnalité. Ce qui est très intéressant, c'est que le volontarisme, en fait, vient de ce que on s'est positionné, non pas sur l'axe calme de sa volonté et de ses choix, enfin de sa personnalité pardon et de ses choix, mais beaucoup plus sur la volonté de correspondre. Et là-dessus, il y a deux choses. Il y a la correspondance à des modèles familiaux parfois inconscients. Quand je dis modèle familial, je ne parle pas de système de valeurs, je parle beaucoup plus de la manière dont on est validé. Si par exemple j'ai un père très expert, je vais tout faire pour montrer que je suis un expert, même si je suis un surdoué de la relation ou un surdoué de la décision. Et donc il y a un problème de volontarisme, une volonté de correspondre à un modèle, souvent inconsciemment, qui ne correspond pas du tout à son être. Et l'autre côté de la correspondance, c'est par rapport, encore une fois, à une société qui est de plus en plus portée vers l'image. C'est-à-dire volonté d'instagrammer sa vie sans cesse et de pouvoir continuer à dire aux gens « Regardez comme je suis parfait, regardez l'image est parfaite, regardez j'ai retoileté, c'est du mensonge, c'est juste du mensonge organisé. » Voilà. Et donc, toute l'idée pour moi, c'est de redescendre dans les profondeurs de soi pour être en vérité. J'ai formulé ça aussi comme ça en disant « Les échecs amoureux viennent souvent de ce qu'on a donné rendez-vous à l'autre avec quelqu'un d'autre que soi-même. » Forcément, ça ne peut pas marcher. Voilà. Et l'image que j'associe à ça, sur le côté volontarisme, c'est l'image de l'escalade. En escalade, on ne fait pas tout avec les bras. Donc, dès qu'on est, dès le départ, dans une démarche de preuve, dans une démarche qui est très tournée vers l'extérieur, c'est on veut avoir les bras gonflés pour montrer la démonstration de preuve, montrer à quel point on est fort. Et en fait, très vite, on est en limite de capacité. Pourquoi? Parce que ce qui porte vraiment une ascension, ceux qui font de l'escalade le savent, ce sont les jambes. C'est beaucoup moins visible, beaucoup moins honorable que les bras musclés. Mais c'est là qu'est la poussée.
Donc, je pense à l'entourage, aux personnes qui entourent, par exemple, un jeune couple.
Oui, ce qui est très intéressant sur l'entourage, c'est ça. C'est-à-dire que l'entourage, le boulot de l'entourage, c'est non pas soit de rassurer, soit de masquer, soit de se donner bonne conscience en balançant un scud pour dire « j'ai dit ce qu'il fallait ». C'est générer au maximum les conditions pour que la personne qui doit choisir puisse être en capacité de le faire. Ça implique... Donc, d'une part, bien sûr, jamais de jugement. Ça implique beaucoup, beaucoup d'écoute, parce que souvent, simplement en parlant, les gens vont par eux-mêmes s'apercevoir qu'il y a un problème. Donc, l'écoute, la meilleure façon de permettre les choses. Le fait d'être d'abord un soutien, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui, quand ils voient une situation compliquée, que ce soit encore une fois avant un mariage ou après, veulent juste statuer sur la situation. Ça n'apporte strictement rien. Et donc, ils vont être capables de balancer un jugement et laisser la personne toute seule. Donc, ça l'enferme d'autant plus dans une possibilité de faire la mauvaise décision. Hein, la politique de l'accueil inconditionnel marche à tous les coups. Parce que soit la personne est juste dans une passade difficile, elle reprend des forces, elle repart et les choses redémarrent. Soit elle a des bonnes raisons de s'inquiéter et auquel cas, elle peut mettre les choses en configuration. Le nombre de gens qui veulent juger une situation au lieu d'accueillir ne se rendent pas compte à quel point ils ont une responsabilité dans la décision mauvaise qui pourra être prise derrière ou la manière dont elle sera conduite. Voilà. Et puis même dans la manière de formuler, c'est vraiment ce que je préconise, c'est qu'à chaque fois, il faut donner aux gens des éléments objectifs pour que par eux-mêmes, ils s'approprient leur choix. Faut pas leur donner justement des méthodes toutes faites ou des vérités absolues. On revient sur les discernements. Le discernement, c'est une lecture intime d'un contexte personnel, d'une évidence personnelle que personne ne pourra restituer parce qu'on n'est pas à l'intérieur des gens. Par contre, il faut leur donner, encore une fois, présenter les choses de manière la plus limpide possible pour qu'ils puissent s'emparer par eux-mêmes de la manière d'y voir clair. Voilà.
Je te remercie d'insister sur ce point aussi de l'écoute. Moi, je pense que notre problème numéro un dans notre société, c'est qu'on ne sait pas écouter. On ne sait pas s'écouter soi et du coup, on ne sait pas écouter les autres. Et ce manque d'écoute nous conduit à prendre des mauvaises décisions. Je le pense vraiment. Je te parlais tout à l'heure de quand j'étais plus jeune, avant de me marier, il y avait des choses que je confiais et les personnes autour de moi ne savaient pas écouter. Elles jugeaient, mais non, c'est pas grave, ne t'inquiète pas. Par exemple, la veille de mon mariage, je pleurais toutes les larmes de mon corps pendant 2 heures. Je ne voulais pas écrire cette lettre où on dit oui, je vais bien vouloir me marier avec cette personne, oui, je veux être fidèle, oui, je veux avoir des enfants. J'ai dit je ne veux pas, je ne veux pas. Et le prêtre était à côté de moi, puisque c'était dans un mariage religieux, et il n'y voyait pas le problème. Et il me dit, mais si, écris ta lettre maintenant, parce que sinon je ne peux pas te marier demain. Alors que, de toute évidence, une jeune femme de 19 ans qui pleure toutes les larmes de son corps la veille d'un mariage en disant, je ne veux pas me marier, on l'écoute. Qu'est-ce que ça vient te dire? Des personnes qui sont censées écouter n'en sont pas capables. Et donc, finalement, sont dans le jugement. Tu vois, j'ai l'impression qu'on juge rapidement et on n'écoute pas. Et on donne son avis, mais on n'écoute pas. Et peut-être que voilà un conseil pour l'entourage, c'est d'apprendre à écouter, à recevoir ce que dit l'autre. Il y a une autre chose aussi dans l'écoute, ce qui me vient, c'est que quand on forme un couple, tu parlais d'Instagram, on peut avoir ce côté un peu glamour, un peu sympa d'un couple. C'est joli un couple, c'est joli de personnes qui sont ensemble. Et puis, on peut aimer cette image-là et se dire, mais vous, c'est sûr que ça va bien. Mais vous, vous avez l'air tellement heureux. Vous avez l'air tellement heureux. Vous avez tout pour être heureux. Est-ce que vous connaissez ce genre de phrase qu'on vous balance et qui vous empêche d'exprimer un mal-être dans la relation? Donc, de nouveau, aussi, la responsabilité de l'entourage, c'est d'arrêter de projeter des choses sur le couple. Comment est-ce que tu vas? Comment est-ce que tu te sens en ce moment? Plutôt de dire, toi, c'est sûr que tu vas bien. Et dans ce manque d'écoute, il n'y a aucun espace pour partager ce qu'on ressent intérieurement. On se sent seul et donc cette chose-là prend de plus en plus d'ampleur jusqu'au moment où on s'épuise littéralement et puis voilà, on arrive à la fin de la relation. Et c'est pour cette raison que la masterclass que tu proposes, après l'avoir écoutée, après avoir reçu toutes les clés que tu nous donnes, on s'est dit chez SEM, mais cette masterclass, elle n'est pas uniquement pour les jeunes couples qui se posent la question « est-ce qu'on continue le chemin ou pas ?» Toute personne qui est en contact avec un jeune couple pourrait écouter la masterclass pour avoir des clés et comprendre comment est-ce qu'on peut se mettre à l'écoute d'éléments qui sont donnés et qui permettraient de prendre la bonne décision. T'es d'accord avec moi ou pas?
Mais clairement, et c'est effectivement, je trouve qu'il y aurait un... Ça rejoint un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure, hein, de rendre, entre guillemets, l'expérience de la difficulté obligatoire dans toutes les préparations, donc qu'il y ait des témoins de cette difficulté-là. Je pense qu'il y aurait un besoin vital, et ce serait vraiment génial pour moi, pour tous les accompagnateurs, de participer à cette démarche de fond sur le discernement. Parce qu'on est vraiment là aussi au cœur du sujet, là où on va dire que les deux tentations, ce sera soit l'attachement désordonné à l'image ou à la règle, soit, comment dire, juste prendre soin des gens sans être capable de comprendre davantage ce dont ils ont besoin. Il y a une différence, entre guillemets, si j'ose dire, entre juste donner des forces à quelqu'un pour qu'il retourne dans la fournaise ou être capable, justement, par une qualité d'écoute, de voir qu'il ne s'agit pas de renforcer quelqu'un qui se mûre dans une situation destructrice, mais d'abord de l'équiper pour qu'il s'en retire, voilà. Souvent, c'est un peu, c'est pas grave, retourne-y, je te donne des forces, tu vas droit au carton, mais c'est pas grave. C'est là qu'on on articule le soin donné de la clairvoyance, l'écoute pure des gens, de l'écoute aussi des situations.
Puis ça peut commencer très tôt, hein, parce qu'ici, on a une masterclass sur la question de la relation, mais toutes les clés que tu donnes, elles sont valables pour les décisions en général qu'on prend dans la vie. D'ailleurs, et c'est nous qui t'avons proposé de venir donner toutes ces clés et transmettre ce savoir et cette connaissance, cet art du discernement appliqué à nos relations. Donc, dans tous les cas, je veux dire, c'est valable pour nous tous, pour toutes les décisions qu'on peut prendre. François, tu sais que j'ai toujours énormément de plaisir à converser avec toi sur cette question du discernement qui est un fil rouge dans ta vie et dans la mienne aussi. C'est notre point commun. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés à vous proposer aujourd'hui cette masterclass pour SEM. Si on devait peut-être juste s'arrêter sur une chose que tu as découverte ces dernières années et que tu voudrais transmettre à celles et ceux qui nous écoutent, quelque chose que tu voudrais leur partager.
Oui, ce que j'aimerais sans doute leur partager, c'est ça, c'est que le discernement, en somme, c'est l'écoute de la réalité dans sa complexité. Et la réalité demeure là où la raison, l'apparence, l'image, l'imagination passent. Tandis que la réalité revient comme une marée d'évidence calme, souveraine. Elle s'impose à vous, presque malgré vous, et que donc, à partir du moment où vous mettrez dans une configuration d'écoute réelle, ayez cette sérénité de ce que j'appelle un peu la moisson différée. C'est-à-dire que plus vous vous accrochez aux choses, plus vous voulez à tout prix que les choses vivent plus parce qu'il y a la pression extérieure, parce que c'est votre configuration mentale, et plus vous allez vous retrouver dans une situation inextricable. Plus vous lâchez prise, plus les choses, d'ailleurs, quelle que soit l'orientation, hein, que ce soit pour demeurer ou que ce soit pour prendre des choix difficiles, les choses reviendront. S'installeront en vous. Rien ne pourra remplacer cette force intérieure de l'accueil et de l'écoute de l'évidence.
L'écoute de l'évidence. Moi, je repars avec vraiment cela. Et je te remercie infiniment pour cette masterclass qui est magnifique, que je recommande à tout le monde. Et moi-même qui suis sur ces sujets-là, j'ai appris vraiment énormément de choses nouvelles. Donc, merci beaucoup, François, pour ta générosité. Et merci pour cette conversation aussi. Pour la première fois, on a pu parler l'un et l'autre de situations très personnelles, mais pour servir celles et ceux qui nous écoutent, pour leur permettre de vivre un amour heureux, un amour durable, voilà, qu'on leur souhaite de tout notre cœur. Merci beaucoup et puis à très bientôt, je l'espère. Si vous désirez l'amour durable, retrouvez toutes les propositions de SEM sur notre site internet sem.co et sur nos réseaux sociaux Instagram et Facebook. Si vous êtes un professionnel du love care, rejoignez la communauté SEM. Et pour semer avec nous cette vision de l'amour, mettez un avis ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute pour soutenir ce podcast. Venez signer notre manifesto et surtout, parlez de SEM autour de vous. Parlez-en à vos amis, à vos familles, à vos collègues qui ont tant besoin d'être outillés et accompagnés pour vivre leur désir le plus profond, aimer et être aimé durablement. Ensemble, nous réussirons à opérer la révolution de l'amour.